Bonjour Hugo, bonjour à tous. Près de deux mois après sa disparition, la famille d'Erwan a lancé un appel citoyen pour traquer le moindre indice et pour éventuellement libérer la parole. Ambiance Terre reviendra en septembre pour une deuxième édition, un salon de l'agriculture à l'échelle départementale pour reconnecter la population qui s'est éloignée des fermes. À Thouars, l'opposition a suggéré une baisse des impôts locaux. La réponse du maire est cinglante. À Bressuire, Bocal a invité San Severino à se produire en concert samedi. Le chanteur français rend hommage à François Béranger. Et puis, reportage à suivre sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques à l'échelle de Meillobrèze. C'était hier matin. La famille d'Erwan a lancé un appel citoyen. Erwan n'a pas donné signe de vie depuis une soirée passée à la discothèque La Morinière à Montcoutan le 10 février dernier. 7 longues semaines se sont étirés sans que le moindre indice, la moindre piste ne puisse apporter un début de réponse, insoutenable pour les proches qui appellent chacun à fouiller encore et encore. La découverte le week-end dernier du petit Émile disparu depuis plusieurs mois attestant que l'on peut avoir ratissé le secteur et passé à côté de quelque chose. La belle-mère d'Erwan, Karine Blais.
L'affaire du petit Émile, hélas, a pu nous le montrer. Plusieurs semaines, voire mois, après les événements, on peut encore trouver des indices, trouver des éléments matériels. On veut pas baisser les bras, on veut pas lâcher l'affaire, on veut pas se résigner. Donc c'est important pour nous de reprendre un petit peu les recherches sur le terrain pour peut-être trouver quelque chose. On a pu passer à côté de certaines choses, on sait que c'est possible, on sait que ça arrive, c'est déjà arrivé, pas que pour le petit Émile, dans d'autres situations. Il y a des points d'eau privés, il y a des cabanons qui peuvent être à l'abandon, non utilisés, des bâtiments agricoles, des maisons abandonnées. Et voilà, on se dit que on n'a peut-être pas tout regardé, on n'a peut-être pas tout fouillé et qu'il y a possibilité de trouver encore quelque chose aujourd'hui.
Cet appel citoyen vise donc à traquer le moindre indice, il vise aussi à libérer la parole chez celles et ceux qui auraient gardé le silence sur des éléments de la disparition d'Erwan.
On est convaincu qu'il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose, qui a vu quelque chose ou qui a entendu parler. Voilà. Après, on peut entendre un accident, quelqu'un qui n'est pas forcément en règle ou quelque chose comme ça, peut avoir pris peur sur l'instant. On peut tout entendre à partir du moment où on nous permet de retrouver Erwan d'une manière ou d'une autre.
La cellule d'enquête est toujours active. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors oui, la cellule d'enquête est toujours active. Il y a 5 personnes en tout qui travaillent en permanence uniquement dans le cadre des recherches pour retrouver Erwan. Le problème est qu'aujourd'hui, la juge d'instruction ne nous permet pas encore d'avoir accès aux dossiers et aux informations. Donc ça, c'est aussi une frustration difficile à gérer au quotidien. On ne sait pas comment et dans quel sens avance l'enquête. Alors certes, il faut préserver le secret de l'instruction, ça on l'entend, on le comprend. Néanmoins, pour nous, c'est très très difficile à vivre au quotidien.
Karine Blais, la belle-mère d'Erwan, disparue le 10 février depuis une soirée à la discothèque La Morinière de Montcoutan. Les jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres manifestent leur colère devant la DDT de Niort qui symbolise selon eux l'indifférence et la négligence persistante de l'État, une indifférence illustrée par le mur construit aux portes de la direction départementale des territoires de Niort avec l'inscription « DDT égale parler à un mur ». Le salon de l'agriculture va se décliner sur le plan départemental en septembre prochain à Niort après une première édition réussie à Bocapol, à Bressuire. Elle avait réuni à près de 7000 visiteurs, dont 900 scolaires. La volonté des organisateurs étant de reconnecter l'agriculture avec la population qui s'est éloignée petit à petit des fermes. Jean-Baptiste Razillard, vice-président d'Ambiance Terre, au micro de Vincent Nori.
C'est un métier qui a changé depuis 50 ans, avec la mécanisation, tout ça. Et on sent que les gens sont un peu déconnectés de comment on produit, en fait.
Et on a presque envie de dire que cette image, elle est facile à reproduire dans les Deux-Sèvres parce qu'on est la petite France agricole, finalement, dans notre département.
C'est une chance. On a toutes les productions en Deux-Sèvres. Et on est quand même le premier département caprin. Donc ça, c'est une fierté aussi. On a une belle race de viande qui est la partenaise, qui était aujourd'hui présente sur le salon ici. C'est une richesse, on a tout. On a des maraîchers, on a des agriculteurs en bio, on a la viande bovine, on a des éleveurs laitiers, on a des céréaliers, on a des arboriculteurs, faut pas les oublier. C'est important.
La difficulté, ça peut être aussi d'être à Niort, qui n'est pas forcément une terre agricole ou une terre d'agriculteurs comme peut l'être la Gâtine ou le nord de Sèvres.
C'est peut-être ça aussi le défi, parce que c'est ce qu'on se disait, de tourner dans tous les Deux-Sèvres. On a une chance ou une malchance, j'en sais rien, mais que le département soit très long. Donc il faut aussi aller partout dans tout le département pour pas que ça soit toujours la même région. Une ville qui est assez grande quand même à Niort, donc on a potentiellement du public à aller chercher. Quoi.
Prenez date pour Ambiance TR qui aura lieu du 20 au 22 septembre à Niort avant de revenir à Bocapol en 2025. En bref, le groupe mutualiste Niortais Maïf a dévoilé son bilan avec un chiffre d'affaires en hausse s'élevant à 4,7 milliards d'euros pour un résultat positif de 23 millions d'euros dans un contexte d'inflation et de sinistralité majeure liée au dérèglement climatique et aux émeutes urbaines. Pour la troisième année consécutive, le groupe Maïf enregistre un fort développement avec une hausse record de 106 000 nouveaux sociétaires et adhérents. La fiscalité locale sert les grands projets Thouarsais. La majorité des élus de la ville de Thouars ont voté récemment le maintien des taxes locales. Pour autant, les contribuables vont voir leurs impôts locaux augmenter, car les bases sur lesquelles s'appuie la fiscalité augmentent. Elles ont même été revalorisées de 17% en 3 ans par l'État. Au conseil municipal, l'ancien maire de gauche, Patrice Pinault, a fait valoir que les collectivités pouvaient baisser les taux pour alléger la charge des contribuables. Il le suggère comme un amortisseur social. La réponse de Bernard Pénault, l'actuel maire, est sans appel au micro-colline de Dominique Hérault.
On ne peut pas rattraper 20 ans de retard en investissement structurant dans une ville et en même temps décider de perdre de la capacité d'investir. Effectivement, les bases sont revalorisées tous les ans par l'État au niveau du coût de la vie, c'est-à-dire l'inflation. Heureusement que l'État fait ça. Si l'État ne faisait pas ça, ça fait un moment que les communes n'existeraient plus. Ou alors, elles seraient obligées d'augmenter les taux pour compenser l'inflation. Donc, on ne peut pas dire, nous, on n'a pas d'inflation, donc les 3,9 on n'en veut pas, on les aura quand même, donc on baisse d'autant les impôts. Ça, c'est une méthode d'opposant. Et l'opposant qui me le propose, il a été 12 ans maire, il ne l'a jamais fait. Donc c'est pas vraiment sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de faire ce qu'on doit faire, c'est de ne pas toucher les taux de fiscalité, on ne les a jamais augmentés, on ne les augmentera pas. Et si on prend notre casquette de particulier, quand on regarde notre rue, notre ville, notre cinéma et tout ce qui se passe, on sait bien que ça se fait comme chez nous à la maison. C'est-à-dire que quand on va faire les courses, il y a une inflation aussi pour les collectivités. Les collectivités qui prendraient le raisonnement, qui est un raisonnement d'opposant de posture en réalité, qui prendraient ce raisonnement, iraient dans le mur financièrement ou ne feraient plus rien.
L'équipe Pénault assume ses choix, le rattrapage et la mise à niveau des équipements urbains. Il est vrai que l'équipe Pinault aux commandes entre 2008 et 2020 a consacré 2 mandats successifs à digérer les généreux emprunts de ses prédécesseurs. Reportage de Dominique Hérault. Au vu de son succès, l'exposition sur l'aventure de Liège joue les prolongations jusqu'au samedi 6 avril à la bibliothèque à Cerizay. Plus de 500 passionnés ont déjà découvert cette expo à travers les archives, photos et objets retraçant l'histoire de l'entreprise emblématique de Cerizay. Bocal s'offre San Severino. Le chanteur français rend hommage à François Béranger, auteur-compositeur-interprète qui s'est fait connaître dans les années 70 dans un style engagé et contestataire. San Severino, qui lui a consacré 2 albums, sera donc sur la scène bressuraise de la Salle Émeraude ce samedi 6 avril à l'invitation de Bocal, qui n'a pas l'habitude de faire dans la chanson française, mais qui se retrouve bien dans le travail de San Severino. Maxime Marolo, le coordinateur culturel de Bocal.
Un petit plaisir de l'équipe de Bocal, parce que ça nous tenait à cœur de faire venir un artiste un peu plus gros sur cette saison. Un artiste qui est aussi dans l'esprit de la salle, qui est comme sur la chanson française, mais avec un esprit un peu contestataire.
Alors c'est un spectacle hommage à François Béranger, hein. Faut pas s'attendre à voir les titres les plus connus de San Severino.
Oui, voilà, c'est vraiment axé sur ses albums. En hommage à François Béranger.
Avec une première partie aussi intéressante.
Oui, donc là on a fait appel à Lille, donc qui est une artiste poitevine, qui fait de la pop folk, seule en scène aussi avec sa guitare, avant l'arrivée de San Severino. La salle contient 220 places debout, donc on est vraiment limité en termes de place, donc tout le monde sera debout. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de même surélever un petit peu les artistes pour que tout le monde puisse bien voir.
San Severino à la Salle Émeraude de Bressuire ce samedi 6 avril à 20h30 avec Lille en première partie, tarif de 18 à 22 euros. Le lancement de la semaine olympique et paralympique hier matin à Nueil-les-Aubiers, 1/8 de la population, plus de 700 enfants de toutes les écoles et du collège de la commune se sont retrouvés aux abords de la salle Belle Arrivée pour ce moment d'échange et de partage qui a aussi rassemblé les enseignants et des parents d'élèves. Tous ces élèves de la commune, par groupe, représentant ainsi une délégation de chaque pays, ont défilé sous les applaudissements de leurs camarades. Nicolas Billy, le responsable du service des sports de Nueil-les-Aubiers.
En fait, on leur a laissé libre choix sur la délégation à choisir. Donc après, ils avaient un travail avec leurs enseignants ou enseignantes, comme vous avez vu, hein, sur les drapeaux, sur les déguisements, les couleurs, etc. Donc nous, on a géré toute l'intendance avec Quentin. En fait, chaque cycle scolaire, de cycle 1, cycle 2, cycle 3 et les collégiens, auront une demi-journée par semaine qui leur est dédiée sur une activité sportive diverse. Chaque enfant aura une demi-journée à lui. Nous, on est dans la logique de ce qu'on met en place avec les enfants, le sport pour tous. Donc là, en fait, c'est le lancement de la semaine olympique. Après, il y a toute la semaine où il va se passer plein de choses. Donc on est content de ce premier événement là qui lance bien la semaine et qui terminera par vendredi soir la soirée sur le handisport avec des ateliers de 17h30 à 19h30 et le match de basket fauteuil à 20h30.
En parlant également de paralympisme.
Alors on aura du paralympisme seulement vendredi, mais le paralympisme, on le rappelle, hein, de cycle en cycle, à chaque fois dès qu'on fait d'intervention, il y a toujours une partie sur le handicap qui est intégrée. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine avec les enfants de Nueil-les-Aubiers.
710 enfants exactement pour le lancement de cette semaine olympique et paralympique à Nueil-les-Aubiers. Avec ce défilé, la France était représentée par les enfants de petite et moyenne section de l'école Jacques Prévert où Thomas Naudin enseigne. Il est également au micro de Patrice Bémanangy.
Il y a toutes les classes des différentes écoles de la commune qui vont se rencontrer et faire des épreuves sportives tout le long de la semaine.
Alors j'imagine qu'il y a eu tout un travail en amont.
Oui, effectivement. Donc on a parlé un peu avec les élèves, on a vu les activités qu'il y allait avoir. On a fait plusieurs petites choses et puis là tout se concrétise. Donc ça va être la semaine où les enfants vont s'amuser, vont faire plein de choses et découvrir des sports qu'ils connaissent peut-être pas aussi d'ailleurs.
Comment s'est passé le travail justement en amont? Les enfants étaient très réceptifs.
Alors pour les plus grands en plus, oui, pour les petits découvrent, hein, donc déjà voir un peu ce que c'est le sport tout simplement. Parce qu'après tout ce qui est notion de Jeux Olympiques pour les 3 à 4 ans c'est encore assez vague et c'est compliqué à avoir, mais déjà de découvrir différents sports, de découvrir ce que c'est, de faire des choses ensemble, déjà ça c'est important.
Ils ont conscience qu'il va se passer quelque chose de particulier en 2024 en France?
Les plus grands, oui. Les plus petits, non. Pas forcément, certains oui, mais pas encore.
Le temps fort de cette semaine olympique aura lieu vendredi au complexe sportif de la Ronde à Nueil-les-Aubiers, donc avec à 20h30 un match de basket fauteuil. Auparavant, différents ateliers sur le handisport seront proposés de 17h30 à 19h30. L'entrée sera à prix libre. Les sommes collectées seront reversées à l'association Sport Culture Handicap 79 dans le but de financer le projet d'emmener 220 collégiens aux Jeux paralympiques.